artistes et l'institution. Découvrez des pièces des époques pharaoniques, coptes, islamiques, mais aussi des œuvres modernes et contemporaines. Le Théorème de Nefertiti, du 23 avril au 8 septembre, à l'Institut du Monde Arabe, avec Radio France.
Jeudi 25 avril, Ayam fête la sortie de son nouvel album Art Martien sur le Move. Ils sont fiers, passionnés, prêts à tout. Ayam vous offre un concert unique. Concert privé d'Ayam, jeudi dès 21h sur le Move, une radio du groupe Radio France.
France Inter. La voix est libre.
France Inter, 15h04. Tout de suite, c'est là-bas si j'y suis. C'est bien sûr Daniel Mermet.
Le temps est révolu du thermomètre dans le derrière. Le temps est révolu du thermomètre dans le cul. Hier, jadis, autrefois, naguère, pour prendre sa température, l'homme mettait dans son derrière un thermomètre plein de mercure. C'était un objet efficace, convivial et sans prétention, tissant des liens entre les classes lors d'une hospitalisation. Il transitait sans état d'âme du cul maigrichon d'un chômeur au fessier dodu de la femme d'un vénérable sénateur. Messager fort consciencieux, il transmettait durant son job les germes les plus talentueux, les plus performants des microbes. Un fonctionnaire des finances pouvait ainsi courir le risque de profiter des négligences d'un homme poursuivi par le fisc. Un chevalier des arts et lettres, à cheval sur les grands principes, utilisait le thermomètre d'un jockey atteint de la grippe. Hélas, les traditions se perdent, le modernisme fait des dégâts, la convivialité emmerde, la poésie est mise au pas. Maintenant, ce n'est plus pareil, tout change, comme disait Boris, un ordinateur dans l'oreille vous annonce vos 37-6. Fini le temps où l'infirmière vous annonçait avec humour « Mettez-vous ça dans le derrière, il est tout chaud, il sort du four ». Songeant, l'œil brillant de malice, à sa patiente précédente qui pourrait faire cuire des saucisses entre ses fesses incandescentes. Je rêve qu'après son séjour dans le néant du purgatoire, le thermomètre enfin parcourt encore le chemin de la gloire et que ce chemin le conduise vers des cubas, vers des cuots, l'attendant comme la cerise espérée par tant de gâteaux. C'était le poète maladif. Salut.
Pour André Comte-Sponville, dans l'Humanité de ce vendredi, le capitalisme n'est ni moral ni immoral. Il avance de façon inconsciente et aveugle, comme le montre l'émission de ce vendredi. Le capitalisme est en revanche amoral. Il fonctionne à l'égoïsme. C'est pourquoi il fonctionne si fort. Ce qui explique les victoires électorales, entre autres, de la Dame de Fer, Régis de Nîmes.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe. Je suis membre de la Coordination Nationale Hôpitaux Maternité pour la défense du service public des hôpitaux de proximité. Et je vous appelle parce que je reviens du rassemblement devant l'Hôtel Dieu qui se tenait entre 13h et 14h. Nous étions entre 100 et 120 personnes. C'est très grave ce qui se passe à l'Hôtel Dieu. Il y a 15 jours, deux services ont été vidés. Deux services, ça veut dire 80 lits, et pas des moindres, c'est-à-dire la chirurgie thoracique et la pneumologie. Alors la pneumologie, elle est maintenant au Val-de-Grâce, et l'Hôtel Dieu, tenez-vous bien, doit payer un loyer et locataire au Val-de-Grâce pour assurer ce service de pneumologie. C'est extraordinaire. Si l'Hôtel Dieu tombe et est fermé, les 9 premiers arrondissements de la capitale, ce sera un désert médical.
Alors moi je me marre. Moi, je me marre parce que les gens de droite, d'extrême droite, là, ah, ils se fritent avec les gardes mobiles. Et alors, ils disent, il n'y a plus de démocratie. Ah, ben, on les a pas entendus quand les gardes mobiles fritaient les gauchistes, les anarchistes. Et quand les gardes mobiles fritent les quateurs de Notre-Dame-des-Landes, on les entend pas non plus. Et puis, tous ceux qui défilent là contre le mariage homosexuel, on les a pas vus défiler pour dénoncer les prêtres pédophiles qui ont sodomisé des centaines et des centaines d'enfants en Europe. Alors là, on les a pas vus défiler.
C'est vrai que depuis des millénaires où les enfants sont élevés dans les familles hétéros, on n'a jamais eu de problème d'abus, de viol, de coups de ceinture ou de perversion morale. On est blancs comme neige, nous les hétéros, c'est vrai.
Moi, je suis scandalisé, là. C'est pour répondre un petit peu aux espèces de types, là, qui parlent de Maggie la salope, là, qui... Vous voulez qu'un mineur jette son cercueil dans la Tamise. Enfin, C'est vraiment un manque de respect. Hein, parce que moi, je trouve que déjà, la Tamise, elle est assez polluée comme ça. Hein. Non, mais c'est vraiment dégueulasse. Je suis vraiment scandalisé.
Oui, bonjour, je suis Jean-Luc Arlotti et j'habite à Versailles. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté vos émissions sur les mineurs en Angleterre. Mon père était mineur en Lorraine. Je peux vous dire que j'étais très intéressé. Cela dit, j'étais en Angleterre en 1991 pour perfectionner mon anglais. J'étais à Oxford à l'époque. Madame Thatcher était très populaire et notamment j'avais des cours particuliers en tête-à-tête avec des professeurs. Et j'étais chez un de ces professeurs qui était très content de la politique de Madame Thatcher, notamment parce que me disait-il, je ne sais pas si je comprenais bien ce qu'il me disait, me disait-il, grâce à elle, il avait pu acheter sa maison. Alors sa maison, même s'il me l'avait donnée, j'en aurais pas voulu parce qu'on ne pouvait pas appeler ça une maison, mais il me disait que c'était grâce à elle. Alors j'ai jamais instruit la question, mais... Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai entendu un de vos auditeurs qui avait laissé un message et qui a dit que Mme Thatcher a été réélue 3 fois de suite, ce qui est vrai, c'était tout à fait démocratique. Donc j'aurais bien aimé savoir pourquoi elle était si populaire dans les classes moyennes. Au revoir.
Voilà, c'est vrai que Margaret Thatcher était populaire dans une partie des classes moyennes et même dans des classes populaires, au moins pour deux raisons. Qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est ce que vous avez indiqué. Elle a favorisé effectivement l'accès des classes modestes à la propriété. Elle a donc privatisé. Le parc correspond à peu près en Grande-Bretagne au HLM, ça c'est une raison. Et puis, il y a eu cette victoire, entre guillemets, aux Malouines, aux Falklands, et ça avait plu beaucoup aux Anglais, ça avait beaucoup plu à l'opinion, cette victoire qui rendait un peu, qui était comme un baume sur la blessure de la perte du grand empire britannique, très probablement ce genre de politique, ce genre de... on l'a vu récemment, nous autres, avec le Mali, par exemple. Hein. L'opération française au Mali, c'était un peu comparable. Et effectivement, ça fait remonter la popularité de ceux qui en ont été les initiateurs. Je vais vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, la petite promenade qu'on va faire aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur les résultats médiamétrie la semaine dernière. Les résultats médiamétrie ont été publiés, vous le savez. Nous, on était en reportage en Grande-Bretagne, donc j'ai pas fait de commentaires là-dessus. Mais vous savez sans doute que France Inter, selon ses sondages, a perdu 10% de ses auditeurs sur en l'espace d'un an. Mais là-bas, si j'y suis, est une des rares émissions qui reste stable avec 580 000 auditeurs chaque jour, ce qui est un record sur cette tranche horaire sur France Inter. Donc merci pour votre fidélité, chers AMG. Merci de nous confier chaque jour vos paires d'oreilles qui ne sont jamais loin du front. Et le front aujourd'hui, on va essayer de vous sortir un petit peu de l'ornière parce qu'on vous connaît à force. On sait très bien ce que vous êtes. Vous êtes une bande de rampants, une bande de chômeurs feignasses. D'abord, qu'est-ce que vous faites à nous écouter à cette heure-là ? Vous êtes des assistés, vous êtes des parasites, c'est bien connu. Thatcher, vous aurez appelé des ennemis de l'intérieur. Voilà, c'est ça le rendez-vous à 15h sur France Inter, c'est tout ce ramassis-là. Eh ben, on va s'en sortir, on va finir avec ça. Vous n'êtes que des losers. Alors, on a décidé de faire de vous des winners. Vous savez ce que c'est, des winners? Vous savez assez d'anglais pour faire la différence entre les winners et les losers. Voilà, vous êtes des losers. D'ici à 16h, on va faire de vous des winners, des gagnants. Voilà, la gagne aujourd'hui. Et comment on va faire? Eh bien, on va suivre Sébastien avec Gaylor Van Vimersch. On va suivre Sébastien. Lui, Sébastien, il a choisi. Il est du côté des gagnants. Et comment il s'y prend? Eh bien, il est chasseur de tête. Et vous allez voir comment on s'y prend. Et vous allez voir ce que c'est qu'une tête. Ça va vous étonner. Ça va être exotique pour vous. Et surtout, vous allez voir un petit peu ce que c'est que le luxe. Hein, vous en rêvez de ces belles bagnoles, de ces grands hôtels, de ces paillettes, hein, tout ce monde bling-bling avec des femmes magnifiques, grandes, blondes. Vous en rêvez, mais si, dites-le. Et une soirée avec Carla Bruni, non ? Vous tête à tête, là, avec le champagne. Vous en rêvez ? Vous n'en rêverez plus à 16h, parce que ça va devenir pour vous une réalité. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah, c'est juste pour une petite remarque. Je trouvais que la phrase de Thatcher, quand elle parle à Pinochet en lui disant qu'il avait amené la démocratie au Chili, ça en dit long sur un autre aspect du néolibéralisme, hein, son côté orwellien. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. Le mensonge, c'est la vérité, quoi. Maintenant, aujourd'hui, la dictature, c'est la démocratie.
Salut à vous tous. Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge aura lieu ce mercredi 24 avril à 20h30 au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, à gauche sur le parking de la gare, juste avant de passer le pont. C'est sur le thème de l'intercommunalité, ce qui va changer, et un membre du conseil communautaire de la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, Sylvie Claire, sera présente. Alors venez nombreux, salut, salut.
C'est décidé, je souhaite acquérir un chômeur.
Nos spécialistes en animalerie sont là pour vous conseiller lors de votre achat. Quelles sont les démarches, les documents officiels et les engagements de nos magasins.
Ça, c'est super.
Comment est-ce que je peux faire mon choix ?
Quand je parle de pédigré, en fait, oui, on a tous un blason, on a tous une certaine image, donc qui correspond réellement à ce que l'on a fait sur le plan personnel, professionnel et scolaire aussi.
On va remplir ensemble plusieurs papiers, entre autres le certificat de vente avec le nom de l'éleveur d'où il vient, sa race, son numéro d'identification, tous les petits traitements qu'il a suivis. Un petit livret de responsabilisation qui va vous expliquer comment bien vivre ensemble pendant de nombreuses années.
Merci de votre aide.
C'est super. Vous sentez-vous différent ?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Gaylor Van Vimersch, au pays des chasseurs de tête, winner ou loser, que choisir ?
Philippe, voici de profil de contrôleur de gestion. Je dois rencontrer PG. Mardi 9. Ok, hop, on s'en fout. Prétention salariale. 48 stack. Dans l'attente de vous dire de vous entendre. Cordialement. Et la signature. Et voilà. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres CV à trier aujourd'hui ? Contrôleur de gestion, trop jeune puisqu'il a un master. Et c'était les stages. Donc c'est pas la peine. Ça, c'est réglé. Poubelle. Ça, c'est un développeur. Voyons voir le développeur. Bingo. Vu son nom, c'est un Indien. Donc, ça va être un gros problème, ça, pour placer. Donc, ça, c'est poubelle aussi.
Ah oui ? Pourquoi ? Trop dur de le placer ?
Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que le problème est que c'est un jeune qui démarre dans la vie. Il ne fait pas du tout partie de mon cœur de cible en termes de candidat. Je m'attaque aux personnes qui ont un bon niveau, donc peu importe le secteur d'activité. Donc il faut au moins qu'ils aient 8 ans d'expérience professionnelle pour entrer vraiment dans ma shortlist. En ce qui concerne cette lettre de motivation, là, c'est une lettre de motivation bien française. Il me dit qu'il est titulaire d'un master et qu'il cherche son premier emploi, tout simplement. Donc il est très motivé. Et il me parle de son dernier stage. D'accord, ok. Il a fait des stages, mais un stage, il a rien vu. Il a fait quoi ? Il a apporté des cafés à son boss ? Moi, à ce niveau-là, c'est pas ce que me demande ma clientèle non plus. Ma clientèle veut quelqu'un qui est déjà opérationnel. Je suis là pour écrémer.
Et alors donc, lui, poubelle ?
Lui, ça, c'est dit poubelle, là. Ok, donc voilà. Ça, c'est torché. Je l'ai vu. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur celui-ci ? Oui, le webmaster, j'ai dit que c'était poubelle. Ok. Concrètement, il n'y a que de la merde.
les profils que j'ai sous les yeux sont soit n'ont pas assez d'expérience en fait professionnelle. On peut être les diplômes mais manque d'expérience.
Vous avez reçu combien de candidatures aujourd'hui? On regarde sur l'écran d'ordinateur.
Là ce matin, j'en ai reçu une petite dizaine, oui.
Quel est votre métier, quelle est votre profession, Sébastien?
Beaucoup de personnes disent que je fais du jus de cerveau.
Du
jus de cerveau. Donc, vulgairement parlant, plus précisément, en fait, je suis chasseur de tête.
Shortlist, process, job board, sourcing, partner, outplacement. Si vous savez ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, vous avez peut-être vos chances de voir un beau jour un headhunter en face de vous. Headhunter, c'est de l'anglais et ça veut dire chasseur de tête. Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous êtes quelqu'un d'important, une tête, une grosse tête, un personnage important, ingénieur, directeur, responsable, expérimenté? Vous pouvez avoir un gars qui vous approche, qui vous téléphone d'abord, qui vous approche, qui... et qui, au moment précis, un moment... charnière, vous dit, est-ce que ça vous plairait d'aller bosser là-bas chez un autre, etc. C'est flatteur, non? Parce que l'offre, évidemment, de salaire et va avec cette proposition. Il s'agit de vous débaucher pour aller bosser chez l'autre, c'est-à-dire sortir de votre boîte pour aller dans une autre boîte. Voilà, et le gars qui vient vous voir, c'est un headhunter, c'est-à-dire un chasseur de tête. Et c'est le travail de Sébastien. Je vous ai dit qu'on allait rencontrer que des gagnants, que des gagneurs. Et j'ai un petit peu... J'étais un peu trop rapide, j'étais un peu trop vite. Parce que voilà une profession qui est un peu sinistrée. Et oui, la crise est passée par là. Et cette profession qui existe depuis je ne sais combien de temps, une quarantaine d'années, est un petit peu en crise. Il y a des grands cabinets, hein. Il y a des indépendants, mais il y a des grands cabinets qui font ce boulot à la demande d'une entreprise qui cherche un profil, qui cherche un rouage dans son entreprise, un rouage bien précis, bien calibré, qui sait faire ça de là à là. Et il faut le trouver. Et c'est pas, on ne trouve pas ça forcément sous le pas d'un cheval. Alors c'est le boulot des chasseurs de tête de partir à la chasse. Et il faut savoir où trouver cette perle rare. Et c'est le travail de quelqu'un comme Sébastien. Il va nous expliquer tout ça. On va le suivre dans son boulot, dans ses rencontres, dans ses... Les castings, c'est comme des castings, hein, au fond, qu'il fait passer. Et ça va nous permettre de découvrir tout un univers, celui du business, celui des affaires, tout un monde avec un univers culturel qui en fait rêver quelques-uns, mais quand même pas tous. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, au pays des chasseurs de têtes. Feeling spry,
22983, take 1. Je sais que tu n'es pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens, tu sais. Ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, l'argent, l'argent. De l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent, l'argent,
Nous sommes dans le quartier de Bercy, gare de Lyon, à Paris. Et on arrive là à l'hôtel Pullman. C'est un hôtel de luxe parisien, hein, un hôtel au standing. Là, on est face au bâtiment. Il y a plusieurs voituriers, des berlines garées un petit peu partout, des Mercedes, des BMW, mais aussi là, il y a une Porsche. Et face à l'entrée de l'hôtel, il y a ces drapeaux, des grands drapeaux qui flottent au vent là. Le drapeau de l'Europe, le drapeau des États-Unis, le drapeau français, qui sont encadrés par deux drapeaux de la chaîne d'hôtels Pullman Hotel and Resorts. Si on vient ici ce matin, c'est parce qu'on a rendez-vous avec Sébastien Origas, qui exerce une drôle de profession, celle de chasseur de tête. C'est un métier dérivé des pratiques anglo-saxonnes de recrutement. Les anglo-saxons appellent ça « executive search ». En fait, ces chasseurs de tête sont chargés d'aller chercher des managers, des compétences dans une entreprise pour, eh bien, revendre leurs services dans une autre boîte. Et ils sont payés à la commission selon le nombre d'employés qu'ils arrivent à placer. Et donc pour tout manager accompli aujourd'hui, le rêve dans une carrière, l'apogée d'une carrière, c'est un petit peu justement de se faire chasser. Mais aujourd'hui, le milieu des chasseurs de tête connaît, eh bien, un ralentissement du fait, eh bien, de la crise, comme tout le monde. C'est-à-dire que les chasseurs de tête sont de moins en moins nombreux, des gros cabinets de chasse ont mis la clé sous la porte, et les chiffres d'affaires baissent. C'est normal, puisque sur le marché, il y a moins de compétences à vendre. C'est comme ça que ça marche. Et la personne avec qui on a rendez-vous, Sébastien Origas, lui est indépendant. C'est un jeune chasseur de tête, il a 35 ans. Ça fait 10 ans qu'il opère dans la profession et on va voir qu'en pleine crise, eh bien, la concurrence est encore plus rude. Ah, voilà notre homme qui arrive, Sébastien, dans une limousine.
Bonjour.
Je vois qu'on se refuse rien là, c'est limousine Mercedes pour l'arrivée à l'hôtel.
Pourquoi se refuser les choses quand on peut se les faire gentiment et tranquillement?
Allez, on y va. On rentre, on est dans le sas.
On a un entretien aujourd'hui, on va se mettre juste là.
Alors on est où là?
Là en fait, on est dans le bar d'un hôtel qui est mon lieu de travail.
Donc en fait, vous allez faire les entretiens dans ce hall d'hôtel?
Je fais tous mes rendez-vous dans des halls d'hôtel, sachant que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus simple.
Là, il y a du monde. Hein.
Il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'entreprises aussi qui font la même chose.
Ah, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent faire leurs entretiens d'embauche ici?
Tout à fait.
On va s'asseoir.
Asseyez-vous, prenez place.
Bon, c'est pas moi qui passe l'entretien, hein, je vous rassure tout de suite. Il y a une grande fontaine qui coule sur une longue vitre. Il y a des palmiers, deux fauteuils assez confort qui pivotent et une table au milieu. Donc vous allez mettre le candidat face à vous. Comment ça va se passer?
Le candidat est toujours face à moi. Je les mets systématiquement, en fait, on pourrait dire hors cadre. Mon but est de les déstabiliser. Personnellement, j'ai connu ce genre de cadre quand je vivais à l'étranger. J'étais en Chine en fait. Et la plupart de mes rendez-vous, que ce soit avec des expats ou des dirigeants locaux, se faisaient pas dans des bureaux. La réelle négoce, le vrai, quoi, en fait, la vraie vie se passait dans un hôtel. J'ai toujours en fait eu dans mon entourage une clientèle, le top et middle management, donc vraiment des décideurs plus précisément. Même là, quand je reçois des candidats, ce sont quand même des cadres de haut vol, hein, et non un simple salarié. Donc je m'intéresse vraiment, on pourrait dire, un peu à une élite dans une société. Si vous regardez un peu plus loin sur votre droite, vous voyez quand même des hommes d'affaires qui sont là-bas, en train sans doute de mener une réunion. Les commerciaux, les directeurs commerciaux, il faut les mettre dans des endroits luxueux. Des endroits où on va passer donc des mecs qui ont du pognon, où on va avoir des Rolls, des Porsche, des belles bagnoles en fait. Ça fait un peu rêver les gens. Un commercial, ça va le faire rêver. Un vrai commercial, en fait, aime la gagne. Va bosser, va se défoncer pour pouvoir avoir ça. C'est un mec qui va aimer les belles choses, qui va vouloir se défoncer dans son travail pour pouvoir se payer la dernière Rolex, par exemple, qui est sortie. Je les reçois ici pour les mettre dans un contexte où il y a du pognon, on va même entendre des gens parler de business à côté, donc c'est pas le même monde.
Vous dites la gagne.
La gagne, oui, la gagne. Tout le monde a faim, tout le monde veut du fric. Ça, c'est la gagne.
Tout le monde est prêt?
Oui. Bonjour. Avez-vous peur de parler en public? Imaginons, demain vous passez un entretien d'embauche devant 3 ou 4 personnes, ou bien vous passez un entretien d'embauche collectif, ou bien encore vous passez l'oral d'un concours et vous êtes devant un jury. Avez-vous peur de parler en public?
Sébastien Rigas. Oui, Tony. D'accord, je viens vous chercher dans 2 petites minutes. D'accord? Merci.
Le candidat arrive.
Le candidat vient d'y arriver, donc on va passer à la phase d'entretien dans quelques minutes. Je vais le chercher.
Alors,
très bien. Tony, voici ma carte.
D'accord.
Donc Sébastien Regas, comme je vous ai dit, chasseur de tête. Hein. D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait déjà dans un premier temps, c'est savoir qui est Tony.
D'accord.
Savoir ce qu'il a fait.
D'accord.
Ok. Ce qui fait briller, ce qui intéresse Tony plus précisément.
Donc moi, si vous voulez, j'ai toujours été intéressé par les chiffres, par la comptabilité, tout ce qui est contrôle de gestion, faire parler les chiffres, ça m'a toujours passionné. Et donc par la suite, je suis toujours orienté par le contrôle de gestion. Bon, j'ai différentes expériences. L'essentiel de mes expériences, c'est plus dans le domaine banque-assurance.
C'est ce que j'ai vu.
Globalement, un peu pour résumer, moi, j'ai fait toutes les facettes du métier de contrôle de gestion. Donc, rentabilité, analyse des marges, etc. Donc,
d'accord, ok. Question un peu qui n'a rien à voir. Vous pensez quoi du cadre ?
Pardon ?
Vous pensez quoi du cadre ?
Du cadre de...
Du lieu, en fait.
Bah, le lieu, écoutez, il est très sympa parce qu'on est dans... Non, mais le cadre, je pensais le mot. Le cadre, la fonction.
Non, je parlais du lieu, en fait.
D'accord. Non, bah, je pense que le cadre est très, très sympa et puis permet d'avoir une communication plus, peut-être plus aisée, quoi.
Mm-hmm.
On est dans un environnement neutre, donc on est sur un pied d'égalité, en quelque sorte.
C'est le but recherché, en fait. Est-ce que vous pouvez me décrire, Tony, votre emploi idéal, tiens ?
Excuse-moi ?
Est-ce que vous pouvez me décrire votre emploi idéal ?
Bah, l'emploi idéal, moi, je dirais, c'est occuper un poste de contrôleur de gestion complet.
Oui.
C'est être, en quelque sorte, le bras droit des directeurs, des directions. Donc,
la question est peut-être un peu mal interprétée, en fait. Au téléphone, vous me parliez de diverses choses que vous meniez en même temps à un côté, donc comme le théâtre, voilà. Là, je ne vous demande pas de me réciter une pièce, Tony. C'est un truc que je ne supporte pas. Moi, personnellement, je n'attends pas un discours préformaté sur le contrôle de gestion.
D'accord.
Ok, qu'on soit bien clair. Quand je vous le dis, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, ce n'est pas Tony, le contrôleur de gestion.
Ah,
voilà,
d'accord.
Je fais des chiffres. Ça, c'est un truc qui me répile, qui me donne des boutons. Blague à part. Donc voilà. Mais si j'en sais davantage sur vous, je pourrais peut-être mieux vous comprendre et vous faire une proposition qui serait vraiment super.
D'accord.
Pour vous. Parce que là, en fait, vous avez arrêté de travailler depuis avril 2012.
Ouais.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent, en fait.
Bah, malheureusement, oui, il y a eu des hauts débats, on va dire.
Voilà. Que ce soit un licenciement ou une démission, c'est pas le bout du monde. Il faut rebondir, il faut se mettre le pied à l'étrier et avancer. Ce que vous me disiez, justement, c'est que pour l'instant, en cherchant du travail, vous continuez à bosser à côté sur l'assaut, sur le théâtre, sur tout ça. Vous êtes quelqu'un de volontaire. Moi, en fait, je sais que je suis un peu hors cadre par rapport à certaines personnes de la profession. Donc, c'est vrai que même des fois, quand je pose des questions un peu méchantes aux candidats, mais que font vos parents ? J'adore ce blanc.
Je pense pas que c'est une question qui peut, pour moi, peut-être hors cadre.
Donc, qu'est-ce qui vous rend fou, en fait, dans la vie ?
Alors, qu'est-ce qui me rend fou dans la vie ? Je dirais que ce sont les gens qui sont hypocrites, qui sont pas sincères. Excusez-moi de l'expression, ça va être un peu vulgaire, qui pètent plus haut que leur derrière. Et si vous voulez, qui sont un peu frimeurs, qui sont valorisés par leur chef, mais qui, derrière, n'apportent rien.
Alors, j'ai dit qu'est-ce qui vous rend fou dans la vie ?
Ah oui.
Pas dans votre entreprise.
Ah, d'accord.
Pour conclure, qu'est-ce que je dois retenir de vous, en fait, Tony ?
Bah, une personne que je dirais qui est sympathique, qui est ouverte, qui est dynamique.
Dynamique, pour tout vous dire, en fait, c'est un terme que tout le monde utilise de fond en comble. C'est un terme qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. En termes de prétention salariale, vous étiez à combien auparavant ?
J'étais à 40. 40
brut ou 40 net ?
Ah, brut.
Et vous souhaitez combien aujourd'hui ?
J'aurais souhaité 45.
Ok, très bien. Entendu. Donc voilà, quoi, je reviens vers vous assez rapidement. N'hésitez pas à me téléphoner aussi.
Très bien,
je vais vous raccompagner.
Très bien,
okay.
Parfait, ça marche.
Merci.
Tout le monde est prêt ?
Oui.
Bon, l'exercice suivant, vous allez vous tourner face à moi et vous mettre en position à genoux.
Tout a commencé par un sourire de complaisance, donné à quelqu'un simplement pour son importance. Puis j'ai entendu ce rire qui était le mien,
souligner l'humour minable d'un homme d'irrespectable. Tout ça pour plaire, tout ça pour avancer. Hey, hey, c'est juste pour plaire, c'est juste pour avancer. Hey, 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 hey. Ensuite est venu le temps de la langue de bois. Ne donner son avis sur rien, attendre celui du roi. Et la cour de son Altesse acquiesce en souriant. Je souris, j'acquiesce, je suis les moutons en mouvement. Tout ça pour plaire, tout ça pour avancer. Hey, hey, c'est juste pour plaire, c'est juste pour avancer. Hey, 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 hey. Dans mon costume de bel enfant trop sage.
Le principe d'un chasseur de tête, c'est trouver la bonne personne pour le bon client. Donc, c'est-à-dire satisfaire son client et le candidat qui est réellement aussi un client. Donc leur trouver le poste idéal d'un côté et trouver le candidat idéal pour l'autre. Ce qui permet réellement aux entreprises de se consacrer à leurs fondamentaux, donc à leur business, et de laisser toute la partie chasse, veille à des spécialistes. Donc, ma cible, ce sont les décideurs. Donc, ce sont des personnes assez hautes. La plupart des candidats que je reçois sont des cadres. Dans le jargon, on pourrait dire que chaque être humain est une cible. Et ma cible, justement, ou ma proie, pour la ramener en trophée au client, tout simplement.
En trophée.
De façon animale, oui. Le chasseur de tête, en fait, est un commercial. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'être humain est un produit. Maintenant, c'est un produit qui est magnifique. C'est un produit qui a toutes ses chances. Et je vais dénicher des talents, tout à fait, et je les revends, je les propose aux entreprises.
Alors, c'est quoi un bon candidat ?
Je dirais surtout quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de s'investir, qui va surtout s'épanouir dans son travail. Hein. Donc, quelqu'un qui sait avancer. Quelqu'un de volontaire, quelqu'un de persévérant.
Depuis combien de temps vous faites ça ? Chasseur de tête ?
Depuis 10 ans.
Voilà. Voilà, depuis 10 ans, Sébastien fait ce boulot. Et je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui se sentent un peu cible, non ? Un peu proie, non ? Un peu produit, non ? Vous ne vous sentez pas un peu produit, un bon produit, vous ne sentez pas un trophée non plus ? Vous ne voyez pas avec, vous savez, comme les têtes de biche ou de cerf avec les défenses là au mur des salles à manger autrefois. Non, ça, vous voyez pas comme ça. Ah, c'est curieux quand même. Mais là, c'est ça, ça vient de ça. Hein. Vous n'êtes pas du tout des gagnants, ni des gagneurs, ni des winners. Quoi. Vous croyez à ces vieux machins de solidarité, de fraternité, d'égalité. Ah ouais. Bah, ouais. Enfin, bon. On continue quand même, mais on va peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez finir par comprendre.
Un petit truc. Quand vous vous engagez dans une conversation, quelques secondes avant, répétez 3 fois le mot « super » dans votre tête. Hein? Ça marche? Dites-le à voix haute s'il faut. C'est super! C'est super! C'est super! Vous sentez-vous différent?
On se trouve où là, Sébastien ?
Alors, on se trouve juste à côté d'un de mes partenaires, dans le 16e arrondissement, que je vais aller voir pour échanger sur d'éventuelles opportunités. En cette période, effectivement, il y a beaucoup de chômage. Maintenant, j'estime qu'il y a du boulot. Beaucoup de personnes ne veulent pas travailler ou ne veulent pas changer. Et préfère rester sur des boulots en fait alimentaires, sur une sécurité de l'emploi.
Comment ça, il y a beaucoup de boulot en France, il y a plus de 3 millions de chômeurs.
Il y a du boulot pour ceux qui veulent bosser. Quand on est au chômage en France, on reste dans ce confort en fait d'avoir son argent de poche, c'est le cas de le dire, pour pouvoir payer ses factures. Et on va toujours rechercher le même poste, alors que vraiment, à la base, on peut faire autre chose. Aujourd'hui, il faut quand même pouvoir rechanger sa carrière, continuer à avancer. Si on reste assis, je veux dire, je perds mon emploi, je reste assis là sur le bord de la route et je me morfonds sur moi-même, je ne vais jamais avancer. Donc la plupart des personnes qui sont au chômage manquent de ténacité. Ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, il faut avoir faim. Quand je dis qu'il y a du boulot pour tout le monde maintenant, que les gens ne veulent pas lever leurs petits doigts et rester dans leur confort, oui, effectivement, il faut être un winner. Et non un assisté, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui.
Alors, on reprocherait de ne pas vous demander, est-ce que les 3 millions et quelques de chômeurs qu'il y a en France à l'heure actuelle sont tous des losers?
Je ne dis pas que ce sont des losers, je dis qu'ils ont eu un moment dans leur vie où ils ont été déçus, où ils ont peut-être eu trop de pression, où effectivement ont démissionné, ou ont été virés de leur poste, sont restés sur un échec et n'arrivent pas à rebondir, ou ne souhaitent pas rebondir. Je pars du principe que quand on est au fond du gouffre, on peut toujours remonter. Donc voilà, maintenant, il est très facile de tomber et de ne pas se relever. Si je prends l'exemple de mon fils, quand mon fils a appris à marcher, comme tous les enfants, mon fils a fait 2 pas et est tombé. Mon fils a continué ses relevés et a continué à réessayer. Donc c'est la gagne. C'est normal, c'est la vie. Quand on subit un échec, il faut systématiquement repartir. Des coachs existent pour ça, des psychologues existent pour aider ces gens-là. Ces gens-là existent pour rebooster le monde.
Vous êtes un rebooster de talent alors?
Je suis plutôt un dénicheur de talent qu'un rebooster de talent.
On va aller au rendez-vous? On y va?
On y va.
C'est cet immeuble-là, là?
C'est cet immeuble, en fait, qui est relativement bien situé. Le cadre est magnifique aux alentours. Donc, le partenaire se trouve derrière cette façade.
On y va, on entre.
On entre dans le... C'est Sébastien.
Merci.
Direction 4e étage.
Salut, ça va?
Enchanté.
Bon, là, on est dans des bureaux, dans le 16e arrondissement. Et Sébastien, vous venez voir un collaborateur régulier, ça?
Je viens voir plus précisément un partenaire avec qui donc je travaille sur la recherche de profil.
Alors, ça veut dire que vous faites quoi ensemble? Vous êtes amené à faire quoi? Vous pouvez vous rapprocher, peut-être vous présenter?
Alors, je suis Kazé Onguéné, PDG de l'Emergence Group. Donc, je travaille avec Sébastien là, depuis à peu près 2-3 ans. On est également devenus amis. Et ensemble, nous travaillons sur la recherche de profils web et Internet. On utilise les services de Sébastien pour recruter des talents, parce qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile. Et les chasseurs de tête ont la particularité d'être très convaincants et d'avoir des pistes que les sociétés n'ont pas.
Est-ce que c'est un bon chasseur de tête, Sébastien?
C'est un bon chasseur de tête, mais il n'a pas de chance en ce moment parce que on est sur un marché qui est extrêmement tendu. Et la grande difficulté qu'il a, c'est que des personnes qui ont un niveau d'expertise suffisant pour intégrer des entreprises comme la nôtre, qui sont des pôles de recherche et développement, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et les profils en général, donc il est obligé, alors moi je le dis, hein, il est obligé d'aller les débaucher, voilà, ça fait partie d'une technique de recrutement, il est obligé d'aller chercher directement en fait chez des clients finaux.
Donc c'est-à-dire qu'il va débaucher chez un employeur quelqu'un qui est en activité, voilà, pour l'amener chez vous.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les chasseurs de tête ont une réputation un peu sulfurique en fait, parce qu'ils ont une force de conviction, ils ont une aptitude justement à créer des infidélités chez les candidats. La première des qualités, c'est le réseau. Donc, je pense qu'un bon chasseur de tête doit avoir un réseau important. Il faut avoir une force de conviction. Ensuite, il y a l'opiniâtreté aussi. Il faut insister parce que si c'est difficile pour les candidats aujourd'hui de trouver des postes, c'est très difficile aussi pour les recruteurs de convaincre les bons candidats de rejoindre son écurie.
Et vous avez combien d'employés dans votre entreprise?
Aujourd'hui, on est 7. On est monté jusqu'à 15 personnes ici. On a fait maigrir parce que bon bah la période elle est ce qu'elle est. J'ai fait maigrir en faisant partir les moins forts d'entre nous. On parle de rentabilité, c'est tout bête. Les meilleurs talents sont plus productifs et en plus d'être plus productifs, ils permettent de gagner des marchés et créer de la valeur. Voilà. Donc à partir de là, des personnes comme Sébastien, s'ils ne trouvent en fait un vrai talent, nous on gagne de l'argent. Ça doit être efficace et rentable tout de suite.
Agnès Soubiran.
La montée inexorable du chômage prend de nouvelles formes, touche des catégories différentes et les femmes sont d'ailleurs particulièrement touchées.
quand vous placez votre participation ou votre intéressement, est-ce qu'elle rajoute à votre effort d'épargne, parce que c'est du rendement immédiat qui vient encore doper l'intérêt de l'opération.
Et qu'on ne touche pas si on débloque.
Exactement. Et la deuxième chose, c'est si vous choisissez les bons produits de placement et que vous gérez correctement votre épargne à l'intérieur de votre plan d'épargne, ça peut faire des petits et ces intérêts sont intégralement exonéré d'impôts sur les plus-values. Vous ne payez que les prélèvements sociaux. Et donc, il faut bien réfléchir à deux fois avant de décider de percevoir immédiatement sa participation ou son intéressement en cash.
Mais la vraie menace, le fondateur de Rolex n'y avait jamais songé. C'est la contrefaçon. Dans les rouages parfaitement huilés de la marque, c'est le grain de sable qui risque de tout gripper.
Je suis passé d'un salaire plus que confortable à quasiment plus rien du tout. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir quand même un salaire qui pouvait atteindre 2 500 € par mois. Là, j'ai un petit peu moins de 800 €. J'ai fait un remplacement pour une compagnie d'assurance. Ce n'était pas du tout dans mes compétences, mais je me suis débrouillée quand même. J'essaye de prendre de temps en temps un poste d'assistante, de donner des petits cours d'initiation informatique de bouche à oreille chez des gens que je connais déjà ou bien des cours d'anglais. C'est pas assez, de toute façon, ça paye les courses de la semaine éventuellement, mais ça me permet pas du tout de vivre. C'est une impasse, pour moi je le vois comme une impasse.
La plupart des personnes qui sont au chômage manquent de ténacité. Quand je dis qu'il y a du boulot pour tout le monde maintenant, que les gens ne veulent pas lever leurs petits doigts et rester dans leur confort, oui, effectivement, il faut être un winner. Et non un assisté, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui.
C'est super. C'est super. C'est super.
On est tous des gros tas de viande inutile. Tous, on ressemble à un élevage de poulets aux hormones. On est bien partis pour tous finir chômeurs et nos enfants, ils seront comme nous. Au plus gros. Le travail, c'est en train de devenir un luxe réservé aux pays qui sont pas prêts d'avoir le RMI. Sauf que pour eux, on remplace leur salaire par un paquet de chips. Ben ouais, y'a plus une thune nulle part à cause du prix des 4x4. Mental qui est en train de niquer toute la planète. Et nous on nous fait croire que pour vivre peinard y'a qu'à buter toutes les vaches folles et surtout les islamistes.
On arrive devant un hôtel de luxe parisien dans le quartier Saint-Lazare. L'hôtel Concorde Opéra, c'est vraiment un superbe hôtel, là on est devant. Magnifique bâtiment, pile face à la gare Saint-Lazare. Et on va rejoindre notre chasseur de tête, Sébastien Origas. Là, nous voilà dans le superbe hall du bar de l'hôtel Concorde Opéra, dans une salle extrêmement haute de plafond, avec des fauteuils très design. Et c'est un petit peu une ambiance de café mondain, avec des grandes colonnades et des belles dorures, des grandes arcades, des belles moulures. La salle doit faire une dizaine de mètres de hauteur. Ce plafond se croit dans un théâtre. Et au plafond, il y a un énorme luminaire en cristal qui descend. Et des miroirs qui reflètent le sol.
On a quoi aujourd'hui d'intéressant ? Alors, un CV.
Alors,
je viens de recevoir un mail d'un de mes collaborateurs par rapport à un contrôleur de gestion. Donc, il me dit qu'il a trouvé un profil dont un peu en âge avancé, donc 54 ans, donc, ce qui n'est pas très grave par rapport au poste.
C'est un poste de quoi ?
Un poste de contrôleur de gestion industriel. Donc, ses prétentions salariales à ce candidat donc, sont de 46 000 à 48 000 euros brut annuels. Je vais déjà appeler cette personne-là pour pouvoir lui proposer un rendez-vous pour qu'on puisse en parler.
Alors là, ce candidat travaille dans quel secteur d'activité ?
Il travaille dans l'aéronautique. Il a travaillé aussi dans le médical, dans un grand groupe américain. Donc la société pour laquelle je suis mandaté est une grosse boîte internationale.
Dans quel secteur ?
dans le secteur industriel. Et il a l'air vraiment super. Un peu vieux, mais vraiment génial.
Un peu vieux, c'est-à-dire ?
Mais il a la cinquantaine passée, en fait. Alors, je ne sais pas, par contre, si ce candidat est en poste ou en recherche d'emploi. On va le savoir de suite. On l'appelle. Oui, Patrick. Bonjour, Sébastien Riga, c'est l'appareil, chasseur de tête. Je me permettais de vous appeler car un de mes collaborateurs a trouvé votre profil et me l'a transmis. J'aurais une opportunité de poste à vous proposer. Je voulais savoir si aujourd'hui vous étiez en poste, en veille ou à l'écoute du marché déjà. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, disons, la semaine prochaine? Je vous proposerai mardi après-midi. D'accord, très bien. On pourrait dire à 13h. D'accord ? Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Alors, hop là. Faut que j'appelle mon collaborateur quand même tout de suite sur le champ. Ouais, Colin. Dis-moi, bon, je viens de voir tes deux mails. Donc, en ce qui concerne le premier, effectivement, il est un peu old. Mm-hmm. Ben, écoute, on sent qu'il est un peu vieux. Donc, c'est pas grave. Ok, donc voilà, donc pour mardi 9, de toute façon je vais te faire le mail, il faut que je fasse aussi le mail au candidat et que je balance tout ça à Philippe tout à l'heure. Mmh. Ok, d'accord, ça marche. Ben écoute la routine, hein. Ça marche, je te remercie. Ciao, ciao. Avec la crise, il faut toujours savoir se diversifier un tout petit peu. Donc plus concrètement, dans les entreprises, des salariés sont licenciés, limogés ou autres, on a souvent des gros plans de licenciement. Donc à ce niveau-là, je pense que j'aurais une carte à jouer et je voudrais pourquoi pas me positionner sur ce marché-là.
C'est le marché sur une boîte qui licencie.
C'est le marché sur une boîte qui licencie.
Et donc vous, votre rôle, c'est quoi à ce moment-là ?
Moi, mon rôle, plus concrètement, ce serait de les prendre par la main, d'écouter leurs désirs et de concrétiser leurs désirs. C'est les accompagner, en fait, vers la nouvelle aventure que l'on va appeler « Bienvenue dans votre nouvelle vie ». Vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Pourquoi pas les aider concrètement à monter un projet, s'ils ont un projet, mais vraiment les accompagner dans le montage du projet. Donc mettre vraiment les personnes sur la bonne voie, sur les bons rails. Pour moi, par exemple, ce serait développer, oui, pourquoi pas, une cellule de crise par rapport à ces points de licenciement-là, tout à fait, oui. C'est une activité nouvelle, mais qui est tout à son honneur. Comme quoi, il y a toujours du boulot. Il y a toujours du boulot pour ceux qui veulent bosser. Si on est déterminé, si on va de l'avant, on pourra toujours, toujours arriver à ses fins.
Eh oui, bien sûr. Il y a toujours du boulot pour ceux qui veulent bosser. Le chômage, c'est un choix. C'est 3 millions, 4 millions, 5 millions... De chômeurs en France sont des gens qui ont choisi. S'ils sont dans la difficulté, c'est un choix de vie. C'est leur problème. Alors, évidemment, ça nous coûte cher. Nous autres qui travaillons, il faut leur verser des indemnités, sont des assistés, etc. Mais enfin, celui qui veut travailler peut travailler. Par exemple, Sébastien, lui, il a du boulot. Ce qu'il évoque là, c'est une perspective de devenir manager de transition. Vous vous souvenez, on avait rencontré des managers de transition. C'est des gens qui, bon, vous avez une boîte, par exemple, vous êtes un grand patron, vous écoutez là-bas ce J'y suis, ça ne nous étonne pas. Et vous voulez vous débarrasser, vous dégraisser votre boîte, virer une partie de ses... personnel. Et puis, ça vous embête parce que ceux qui dirigent l'entreprise, ça va être délicat de leur demander de faire ce boulot-là. Peut-être même qu'ils vont refuser. Il y en a qui sont délicats, des gens compliqués, un peu névrosés, vous voyez. Bon. Alors, vous pouvez faire appel à un gars comme ça, qui va vous faire le travail, qui va faire le manager de transition, qui va faire en sorte que ça se passe le moins mal possible et qui va les conduire vers de nouvelles aventures, vous voyez, qui va leur permettre de les aider à trouver des nouvelles niches, des nouveaux boulots, en prélevant une petite commission quand même au passage, ou alors, éventuellement... En prélevant chaque mois une petite part sur le salaire de la tête qui aura été choisie et qui aura trouvé un nouvel emploi. Je ne sais pas si vous comprenez tout ça, vous, hein. Non, pas tellement. Enfin, j'espère que ça aura été utile à quelques-uns. Quoi, il faut devenir des gagneurs, les gars. Des gagneurs, les filles. Des gagneurs, des gagnantes. C'est la nouvelle devise de la base où j'y suis.
Alors, 13h03, on va quand même appeler le candidat, parce que là, je suis pas content. 74.
Est-ce qu'il est en retard ?
Le candidat est en retard, j'aimerais bien savoir où il est, s'il a trouvé l'hôtel, ou voilà, donc vous êtes peut-être dans l'hôtel en train d'attendre. Oui, allô ? Oui, bonjour, Sébastien Régas à l'appareil. Vous êtes où, là ? Accident de bagnole. Sur le périph. Attends, j'ai pas attendu 3 heures non plus. Hein. Allô ? Quel connard.
Il a raccroché ?
Non, c'est pas ça. C'est que soit il capte pas, soit il attend un dépanneuse, soit j'en sais rien du tout. Mais franchement, bon, ce sont les aléas de la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais voilà, quoi, la délicatesse, c'est au moins d'appeler pour dire je suis à la bourre, ou voilà, c'est pas rester comme un con. Il n'y a plus de respect dans ce pays de merde. Patrick, rebonjour, on a été coupé. Sébastien Rigas, Naos Conseil. Donc voilà, on avait rendez-vous à la base aujourd'hui à 13h, donc j'ai bien compris que vous aviez un gros contretemps. Rappelez-moi tranquillement tout à l'heure, je voulais vous proposer sinon un rendez-vous, même lieu, donc pour demain matin à 10h dans ce cas-là. Mais écoutez, j'attends votre appel. Merci beaucoup, à tout à l'heure, au revoir.
Vous avez des griefs contre la France, vous dites. On est vraiment, c'est vraiment un truc de français, pas prévenir.
C'est vraiment un truc de français de ne pas prévenir. Oui, tout à fait, c'est à mon chiant. C'est-à-dire que souvent, les gens prennent des rendez-vous, mais n'y vont pas.
Ça, c'est français.
C'est typiquement français. Maintenant, on est sur un vieux continent, hein. Un continent où toutes les choses sont encore préformatées à l'ancienne. Et on a du mal à avancer. Rien que sur le fait, par exemple, de parler d'argent. On ne peut pas parler d'argent en France, on est tout de suite mal vu. Au lieu de dire, tiens, ce mec-là a du pognon, c'est super, je peux faire du business avec lui, ou c'est quelqu'un de confiance, ou alors il doit magouiller. C'est là, en fait, où je trouve que c'est vraiment un tempérament de merde. On n'a pas la mentalité, on n'a pas la volonté d'entreprendre. C'est-à-dire que j'estime qu'on est en France des assistés. On vit sur nos acquis sociaux. Or, certains acquis sociaux n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je prends le cas du chômage. C'est facile d'être au chômage, c'est pendant 2 ans au chômage, se dorer la pilule, même de partir à l'étranger, d'envoyer quelqu'un à sa place, pointer à votre place, ou passer les entretiens. Maintenant, si on était dans un système, je veux dire, comme anglo-saxon, où on sait par exemple qu'on n'a que 6 mois d'indemnité, et qu'on doit bosser l'arrière. On ne resterait pas tranquillement dans son cocon, dans son confort, à dire c'est bon, j'ai mes 1000 euros là, ou mes 1500 euros de chômage. Ouais, je les ai pendant 2 ans, j'ai assez bossé, je vais me la couler douce, tiens, je vais partir aux Maldives, en vacances.
Vous pensez que les gens font ça ?
Beaucoup de gens le font. Certains intelligents, justement, vont prendre cet argent-là pour monter des boîtes, monter des business, ils y arrivent.
Et vous, vous avez déjà été au chômage dans votre vie ou pas ?
J'ai déjà été au chômage, oui, j'ai déjà été au chômage, mais j'ai vite rebondi. J'ai vite rebondi, j'ai monté un business derrière, je ne voulais pas rester à m'enfondre.
Combien de temps vous avez été au chômage ?
Pas très longtemps, 4 mois grand maximum. Quand on est au fond du gouffre, c'est très facile d'y rester. Maintenant, après, il faut avoir le bon coup de pied au cul pour pouvoir remonter. J'ai eu la chance, j'ai eu un coup de pied au cul. Certains sont leaders, d'autres sont suiveurs. Les salariés ont besoin d'un patron pour payer leur salaire, pour les gratifier. Un patron a besoin de main-d'œuvre pour faire avancer sa boîte. Donc,
les leaders et les suiveurs.
Leader et suiveur. Donc voilà, donc maintenant effectivement les patrons sont les leaders et les salariés sont les suiveurs. Pour moi, seuls les plus courageux, les plus tenaces peuvent garder le cap. Je m'entoure de ces gens-là. Donc ces gens-là sont, oui, ce sont les gagneurs. Et bosser et être entouré de gagneurs permet de rester donc motivé dans ce cas-là, permet de pouvoir avancer. Je suis là en tant que chef d'entreprise aussi pour gagner de l'argent, pas pour en donner tout le temps aux autres.
Et là en ce moment vous avez plein d'argent ?
Actuellement, c'est relativement difficile. Actuellement, non, je cours après l'argent. Je cours après l'argent, comme toujours. Pour moi, il y a des périodes plus faciles avant la crise, où c'était beaucoup plus simple, il y avait plus d'argent, on pouvait plus facilement négocier et se faire du fric.
Vous dites faire du fric.
Faire du fric. Faire de l'argent.
Ça veut dire quoi, avoir de l'argent ?
Gagner quoi, concrètement ? J'arrivais à gagner entre 4 et 6 000 euros par mois.
4 et 6 000 euros net.
Net par mois, oui. Donc voilà, aujourd'hui, avec la conjoncture, j'ai bien baissé mon niveau de vie. J'arrive à me dégager un salaire de 2000 euros, 2000, 2500 euros net.
C'est pas beaucoup. Parce qu'on se dit qu'un chasseur de tête va gagner beaucoup d'argent. Quand on voit un petit peu votre style de vie, etc.
C'est que de la para.
Ah, c'est ça en fait, c'est que de la para.
Ceci n'est que de la para.
Game over.
Quand je dis qu'il y a du boulot pour tout le monde maintenant, que les gens ne veulent pas lever leurs petits doigts et rester dans leur confort, oui, effectivement, il faut être un winner. Et non un assisté, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui.
Essaye encore.
Vous allez vous tourner face à moi et vous mettre en position à genoux.
Voilà, c'était au pays des chasseurs de têtes. Winner ou loser, que choisir ? Merci à Sébastien Origas. C'était un reportage de Gaylor Van Wimersch. Tout à fait autre chose, jeudi prochain à 20h à la Maison des Ensembles à Paris, 3 rue Aligre, dans le 12e arrondissement, la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme et Attac, organiseront une réunion publique sur le thème « Un ami qui nous veut du mal » pour discuter de l'accord national interprofessionnel. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique « Programme, émission, là-bas, si j'y suis ». Et ou sur le site la-ba.org, vous pouvez réécouter cette émission. Et puis, il y a aussi la page Facebook de là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Grégory Vallon et Yann Bouillot, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, préparée avec Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
C'est super.
Radio France, partenaire de la 100e édition du Tour.
Dès maintenant et jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées, les radios de Radio France vous font vivre un Tour de France exceptionnel. Émission spéciale inédite, portrait de légende, découverte du patrimoine, partez avec nous sur toutes les routes du Tour.
La 100e édition du Tour, un événement à vivre dès maintenant sur les radios de Radio France, avec Le Parisien et Aujourd'hui en France. Plus d'infos sur radiofrance.fr.
Et majordome, ça vous plairait de faire majordome ? Eh bien, là-bas, si j'y suis, vous montrera comment, vous dira, vous indiquera comment on devient majordome. Un bien joli métier aussi, celui-là. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Guillaume Garot promet que le gouvernement se battra pour sauver Spanghero. Le ministre délégué à l'agroalimentaire assure que les 240 salariés de l'entreprise basée à Castelnaudary ne seront pas laissés de côté. Spanghero, qui a été placé vendredi en liquidation judiciaire après avoir subi de plein fouet le scandale de la viande de cheval. Dans ce contexte, Guillaume Garot assistait cet après-midi à une réunion d'urgence avec syndicats et politiques locaux. Nous sommes au coma, dit-il, et nous allons conduire ce combat ensemble. On l'apprend aujourd'hui, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte samedi à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Une femme de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis mardi dernier dans la région. Sa voiture a été retrouvée calcinée en Belgique. La morale laïque sera bien enseignée en primaire et au collège, et ce à compter de l'année 2015. Confirmation aujourd'hui du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon. Il préconise que cette morale soit enseignée à raison d'une heure par semaine en primaire et au collège. Pour Vincent Peillon, une société démocratique ne peut pas vivre uniquement dans la peur du gendarme, mais avec ce qui vient de l'intérieur, ce que nous portons nous-mêmes et qui s'appelle la morale. Fin de citation. Vous avez voulu la guerre, vous l'avez. C'est le message qui a été adressé à Claude Barthelone aujourd'hui dans une lettre de menace, lettre accompagnée de poudre de munitions pour le contraindre à reporter le vote prévu demain sur le mariage pour tous. L'enveloppe arrivée ce matin au Palais Bourbon était adressée à la présidence de l'Assemblée nationale et signée du même groupe qui avait écrit Bala Blanc à l'appui au juge Jean-Michel Gentil, lequel a mis en examen Nicolas Sarkozy le mois dernier. Une enquête a été ouverte. Il s'engage pour des primaires à droite. Trois anciens premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé et Édouard Balladur, se déclarent favorables à la tenue de primaires ouvertes à l'ensemble de la droite républicaine pour désigner son candidat à la présidentielle de 2017. Pour les trois signataires, il importe en effet que ce candidat bénéficie de la plus grande légitimité et donc du soutien que devront lui apporter les électeurs, les sympathisants et les militants. À l'étranger, Tamerlan Tsarnaev, un des deux suspects de l'attentat de Boston tué jeudi, avait à plusieurs reprises attiré l'attention des services de sécurité du Daghestan. C'est ce qu'affirme une source des forces de l'ordre de cette république du Caucase. Les autorités du Daghestan surveillaient un autre homme l'an dernier qui était soupçonné d'avoir des liens avec le milieu islamiste clandestin et qui avait été vu en compagnie de Tamerlan. Plus de 500 soldats français ont déjà quitté le Mali depuis le début du retrait français du pays entamé à la mi-avril. Le nombre de nos militaires toujours engagés dans l'opération Serval s'élève désormais à 4000. 4000 chiffres donnés aujourd'hui par l'état-major des armées qui rappelle l'objectif fixé par François Hollande de ramener le contingent français à 1 000 000 d'hommes d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, un colonel de l'armée française dénonce la grande misère des soldats maliens qui, faute de moyens, ne peuvent tenir leur rôle. 16h03 sur France Inter. Je vous laisse bien sûr en compagnie de Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Merci Maxime Debs. On vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mikko Franck, maestro, et on va dire pourquoi, grand chef d'orchestre finlandais qui dirige dans le monde entier, et aussi Jean-Pierre Lepavec qui est directeur de la musique de Radio France. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Pendant ce temps-là, la traduction est assumée par Paloma Goulmo qui dit à l'oreille de Mikko ce que je viens de dire. Ben voilà, c'est clair. Jean-Pierre, je vous laisse commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important là, ce matin dans le bureau de Jean-Luc Hesse, président de Radio France. Vous-même, vous étiez là avec Mikko Franck et voilà, on a sorti des beaux papiers.
Il y a une belle occasion, une belle cérémonie. On a signé un contrat pour Mikko Franck pour qu'il devienne le nouveau directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à partir de 2015 et pour 3 ans renouvelables. Voilà, donc c'est la continuité de la maison qui se joue dans ces cas-là. C'est toujours un peu émouvant, ça demande de la préparation, ça demande du travail, ça demande... Mais avec lui, tout a été simple. Alors, c'était vraiment... La cérémonie, si je puis dire, reflétait la sympathie qu'il y avait.
Oui, parce qu'on imagine ça quelquefois avec deux avocats, un impresario.
Non, c'est lui qui était... C'est lui qui représentait ses intérêts.
Voilà.
Et en plus, les musiciens étaient là, de l'orchestre. Et ils étaient ravis, avec un beau sourire. Donc voilà, c'est plutôt bien.
Voilà qui est très important, parce que évidemment, le chef est un pilier de l'orchestre. Mais sans les musiciens, il ne peut rien faire. Il ne fait pas de musique, en tout cas. Et il se trouve que Mikko Franck, depuis un certain temps, est venu à la rencontre de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ben, je vais lui demander à lui.
Oui.
Cher Mikko, cher maestro, voilà. Voilà, venez vers moi. D'abord, bonjour. Je sais que vous savez le dire maintenant, j'ai entendu tout à l'heure sur France Musique. Bonjour.
Hello, bonjour.
Hello, bonjour. Il s'est bien, très bien. Alors, vous connaissez l'orchestre depuis un certain temps et vous avez de très bons contacts avec cet Orchestre Philharmonique de Radio France qui est très heureux de vous engager, on va le dire, oui. À la suite de Myung-Hoon Chung, qui reste quand même jusque...
Qui reste encore un an, on a renouvelé son contrat pour un an, donc il reste jusqu'à l'été 2015 et après c'est Mikko Franck qui prend la suite.
Voilà, c'est très bien, voilà. Alors ça fait un certain temps que vous êtes là et je répète la question pour que tout le monde puisse profiter de la réponse.
Well, I'm very happy to be here today and
je suis très heureux d'être là aujourd'hui.
To make the connection with the orchestra to the next level.
Et de faire ce lien et de passer à une autre étape, une autre aventure avec l'orchestre. Ces dernières années, comme vous l'avez dit, nous avons déjà travaillé beaucoup ensemble. La première fois il y a 10 ans.
Et
cette dernière année, c'est vrai que les rencontres étaient beaucoup plus intenses et plus fréquentes. Et ça m'a semblé tout à fait correct et normal de passer à cette étape suivante, de venir le directeur musical de ce très grand orchestre.
Bon, alors je rappelle que vous avez déjà une carrière très importante. Vous êtes né en 79 à Helsinki. Vous avez, je glisse quand même sur pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Mais enfin, directeur de l'Orchestre National de Belgique en 2002, directeur de l'Orchestre National de Finlande en 2006, directeur artistique de l'Opéra National de Finlande. Et puis, on est très content donc que vous veniez maintenant pour diriger l'Orchestre Philharmonique, régulièrement d'ailleurs, puisque par exemple, vous serez Mikko Franck à Orange, au Corrigis d'Orange, le 12 juillet ou le 13 en cas de pluie, pour le bicentenaire de la mort de la naissance de Richard Wagner et le vaisseau fantôme, donc une œuvre absolument géniale, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et on vous écoute tout de suite dans l'œuvre de quelqu'un qui a à la fois admiré et détesté Wagner, c'est Claude Debussy, Image, Iberia 3.